Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas laissé aller dans nos chemins de destruction, de mort. Tu es venu à notre rencontre depuis la maison du Père et tu es venu nous annoncer cette bonne nouvelle que le chemin est ouvert, la maison est préparée, le repas est préparé, nous sommes attendus dans notre maison du ciel. Ouvre notre esprit sur ces choses qui éclaire et réchauffe notre cœur dans tous les passages de la vie. Ouvre notre esprit aujourd'hui afin que nous sachions que nous sommes aimés, que nous sommes attendus, que nous sommes appelés. Merci pour ta parole sans laquelle nous serions dans la nuit et la mort. Merci pour ta parole avec laquelle nous sommes dans la lumière et dans la vie. Par Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons faire la lecture qui est donc écrite sur la feuille en deuxième page, tirée de l'Apocalypse. Nous n'avons pas dans la Bible beaucoup de textes qui nous parlent du ciel, mais suffisamment pour nous faire une très bonne idée. Quand des gens parfois partent en vacances, quand ils m'envoient une belle carte postale de montagne sous la neige, bon, je vois pas tout, mais je me fais une petite idée quand même, qui n'est pas fausse. Eh bien, voici une carte postale que Dieu nous adresse pour nous les vivants, parce qu'il faut dire la vérité aux vivants. On dit toujours qu'il faut dire la vérité aux mourants. Oui, mais aux vivants aussi. Mais les mourants sont vivants. Alors, je fais la lecture. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle ou la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. » Et puis le petit extrait de l'évangile de Matthieu, « Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Parole de Jésus, c'est la vérité. Amen. Dans une famille, un grand-père un jour est décédé. Et puis la petite fille a dit à sa mère, « Dis maman, c'est quoi être mort ? C'est comme quand on dort ? « Non, ma chérie, » a dit la maman, « c'est comme si un ballon sortait de nous et s'envolait, très léger, libéré. » Petite fille de 2 ou 3 ans. Et elle dit, « Je crois qu'il existe un endroit où se retrouvent tous les ballons pour se reposer. » Un endroit que j'imagine très beau et très loin. Mais alors, dit la petite fille, mais pourquoi on met des bougies et pourquoi les gens sont tout tristes? La maman, les questions des enfants, c'est pas facile. Hein. Alors elle a dit, bien écoute, c'est peut-être pour guider les ballons dans leur chemin vers le pays des bulles et des ballons. « Mais maman, tu crois qu'ils vont se retrouver tous ensemble, ces ballons ? » ?»« Oui, je crois que tout là-haut, il y a un beau bouquet de ballons. Heureusement que la petite fille s'est arrêtée de poser des questions. Hein. Les ballons. Je pense que le Christ a dit clairement, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il a même dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Dans l'évangile selon Jean. Alors aujourd'hui, il faut en parler de l'après. Faut-il nous taire parce que ce n'est pas dans l'esprit du temps? Faut-il nous taire parce que ce n'est pas classé au César? Faut-il nous taire parce qu'on a peut-être abusé du ciel et de l'enfer pour manipuler les consciences, peut-être? Ou parce que la science n'a pas bien mesuré toutes ces choses? Ça nous échappe. Mais le royaume, Dieu nous l'a promis, ce ne sont pas des gens en noir à la porte des cimetières qui pleurent. Le royaume dépasse tout ce que nous pouvons ressentir et comprendre sur la terre. Et souvent, aux portes des cimetières, on entend ces paroles. Il est bien heureux maintenant où il est, il ne souffre plus. Il faut se consoler, il faut garder le moral. Hein ? Je pense que beaucoup de choses sont nécessaires autour de la mort, beaucoup de textes sur la mort, sur le passage de la mort, sur la fin de vie, les étapes du deuil, sur l'accompagnement des mourants. Je pense que c'est nécessaire, sur l'accompagnement des enfants endeuillés, des parents endeuillés, sur les rites funéraires. Je crois qu'il est nécessaire de réfléchir sur ce grand passage unique de notre vie, sur les soins palliatifs, l'euthanasie, grand problème. Et puis peut-être dire un petit mot sur les 400 morts récents d'agriculteurs qui se sont suicidés à cause d'une crise impossible à vivre. Il faut dire des mots quand même, des mots sur les mots. Ces questions ont été posées déjà par les hommes de la Bible devant la mort du juste, devant la mort sans enfant, quand on ne laisse pas de descendance, devant la mort sans mémoire, c'est-à-dire la mort qu'on oubliera. Qui se souvient des morts d'il y a 40 ans, de 50 ans? On a oublié leur nom, on ne sait même plus parfois le nom de ses arrière-grands-parents. Et puis il faut dire aussi que ces hommes de la Bible se sont émerveillés devant un chant final de la Bible, un chant qui a fait vibrer le ciel et la terre, « Ô mort, où est ta victoire ?» Job disait, cet homme douloureux, cet homme qui a connu dans sa vie des détresses sans nom, « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, comme l'arbre, j'aurais de l'espérance. » Tout le temps de mes souffrances. Cela veut dire si je savais où nous allions, où nous allons, si j'avais l'espérance que ça va continuer, j'aurais de l'espérance. Alors ça ne veut pas dire que si on sait vraiment où nous allons, je le sais, mais ça ne veut pas dire que l'accompagnement des mourants, des endeuillés n'est plus utile, que nos questions ne sont plus utiles, que les rites funéraires même ne sont plus utiles. Dans la Bible, on a embaumé à la manière des Égyptiens, on a embaumé Jacob. On a embaumé Joseph, et pour Jacob, on a pleuré 70 jours. On aurait pu dire, mais ne pleurez pas, il est au ciel, dans le paradis, à quoi ça sert? On a pleuré Jacob 70 jours. On a gardé Joseph embaumé et on l'a ramené des dizaines d'années plus tard dans la terre promise. Et Jésus, qui savait toutes choses sur le paradis, a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare, parce que la mort est une ennemie. Jusqu'à la fin du monde, ce sera une ennemie, mais qui sera vaincue un jour. Ce qui éclaire notre foi aujourd'hui, dans les passages de la vie, dans le grand passage de notre propre mort, Nous n'y pensons pas beaucoup, nous rêvons de la mort des autres, mais jamais de notre propre mort. Ça signifie qu'on l'a un peu évacué de notre conscience. Ce qui éclaire ce grand passage pour nous, c'est le royaume promis par Dieu. Ce n'est pas seulement l'existence de Dieu. Parce qu'il pourrait exister et nous dire, messieurs, dames, vous n'entrerez jamais chez moi. Mais c'est la promesse qu'il nous a jurée. Je dis bien jurée, c'est le terme de la Bible. Bien sûr, vous me direz, pourquoi aller se réfugier dans le ciel? Pourquoi se cramponner aux nuages? Alors qu'il y a tant à faire sur la terre pour sauver la planète, avec les baleines. Mais si le Christ est venu du ciel, comme nous le croyons, il est donc venu nous parler d'une vérité que nous ne connaissons pas sur terre. Il est venu non seulement nous en parler, mais nous en montrer le chemin. Et sans cette espérance, dit l'apôtre Paul, nous sommes les plus malheureux des hommes, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un d'autre que nous, d'éternel et de grand, et on ne peut rien faire, et on ne peut pas aller vers lui. Si on n'a pas cette espérance, on est les plus malheureux des hommes. Un jour, un homme a rencontré Jésus sur un chemin, et il lui a dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Oui, mais où vas-tu? Où va le Seigneur? Va-t-il simplement au village voisin, chez Marthe et Marie et Lazare? Le Seigneur va, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Et quand le Seigneur Jésus-Christ se manifestera, alors vous paraîtrez aussi. Vous serez manifestés dans la beauté, dans la gloire, dans la splendeur. Attachez-vous aux choses d'en haut. Le Christ ne nous fait pas marcher sur les nuages. On représente le ciel parfois avec un petit nuage rose. Il y a toujours quelqu'un qui joue peut-être pas de la guitare, mais un instrument de musique. La vie avec Dieu commence ici. La vie éternelle, le salut, commence ici-bas. Mais, nous y voilà, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, le Seigneur soulève le voile. Quelques instants. Car nous ne sommes pas appelés à voir tout. La foi, c'est une marche sans voir. Mais il soulève le voile de l'avenir. Parce qu'il s'agit de faire un choix. Un choix de cet avenir. Ou bien nous en prenons le chemin, ou bien nous ne prenons pas le chemin. Mais il faut savoir ce que le Seigneur nous propose dans son contrat. Il faut toujours lire les contrats. Donc il nous dit, voilà ce qui vous attend. Voilà ce que je vous ai préparé. Je dois dire vraiment que l'espérance de la résurrection et de l'au-delà avec Dieu, c'est vraiment une lumière qui transfigure la vie. Capable de marcher sur les flots déchaînés quand on sait où l'on va. Ça redonne courage, lumière, vigueur. Ça nous demande également de renoncer à des choses parfois dérisoires, provisoires, pas s'encombrer. La marche ne doit pas être encombrante. Et puis parfois, des choses provisoires, passagères, ont une grande valeur. Et le Seigneur en tiendra compte. Toute une approche différente des choses quand on a la lumière d'un royaume qui nous attend. Jésus nous dit que nous serons surpris en arrivant dans ce royaume. Ça ne va pas tarder, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Mais dans 1000 ans, je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un ici qui sera encore présent. Même pas dans 100 ans. Nous serons surpris et nous dirons certainement, comme Les hommes l'ont dit, raconté par Jésus, « Seigneur, quand avons-nous vu ?» Avoir soif, avoir faim, en prison, malade. Je vous rappelle la définition de la foi. La foi, c'est une assurance, une certitude des choses qu'on espère. La foi, c'est pas dire « je crois bien que ». C'est avoir cette certitude de ce qui nous attend. La certitude de ce que Dieu promet. Je dirais une définition de la foi. La foi, c'est dire « je sais ce que Dieu m'a promis ». C'est ça la foi. C'est au-delà, au-delà de la vie, qui dépasse toute notre imagination, qui n'est pas montée dans notre imagination, dans notre cœur. Ce sont des choses qui ne font pas partie de ce que nous avons imaginé. Et Dieu nous ouvre les yeux de notre cœur, parce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Il ouvre nos yeux du cœur pour nous montrer la splendeur de l'Évangile, la splendeur du royaume des cieux, où Dieu habite. Dieu habite au ciel et il habite partout où on l'invite. Il peut habiter chez vous ce soir, il n'y a pas de problème. Alors que allons-nous découvrir dans ce ciel? Je vais résumer en 3 points. D'abord, nous allons découvrir beaucoup de gens. Et peut-être un premier, parce que Jésus en a parlé souvent, Abraham. Il nous a raconté une histoire qui ne semble pas être une parabole. L'histoire d'un homme très 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 riche qui tous les jours n'avait qu'une seule idée en tête, bien s'amuser, bien boire, bien manger, et puis habillé de très beaux vêtements. Mais chaque jour, en sortant de sa maison, il devait enjamber un malheureux, un misérable qui s'appelle Lazare, qui était couvert d'ulcères, avec des chiens autour de lui. Ça rappelle des choses contemporaines, les chiens lui léchaient ses ulcères et ce riche passait par-dessus ce misérable et il allait à sa fête et le misérable attendait une miette qui ne venait jamais. La suite de l'histoire, vous devez bien vous en douter, Lazare est mort, à bout de souffle. Et puis la suite de l'histoire, vous le savez bien, le riche aussi est mort. Lazare, à sa mort, a été porté par les anges, dira Jésus, dans le sein d'Abraham, ce qui veut dire aux côtés d'Abraham. Et le riche, pas à cause de sa richesse, mais parce qu'il n'a pas saisi le secours de Dieu, parce qu'il ne vivait que pour lui, le riche s'est retrouvé juste après sa mort, peut-être a-t-il eu un très bel enterrement, mais il s'est retrouvé dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts, en proie au tourment. Et il a levé les yeux, ce mauvais riche, ce mauvais. Il a levé les yeux et il a vu tout en haut Lazare à côté d'Abraham. Abraham lui a dit « mon enfant ». Il a parlé au mauvais riche « mon enfant ». Lazare était tout là-haut, à une place d'honneur, à côté d'Abraham, consolé après les souffrances et les chagrins de la terre. Il est là, rassuré et consolé. Il y a un accueil dans le ciel du père des croyants, Abraham, dans le paradis. Ce qui m'a surpris, c'est que Abraham a parlé à ce mauvais riche et il lui a dit « mon enfant, mon enfant ». Tu as eu tes biens pendant ta vie. Lazare n'a eu que les maux pendant la sienne. Autrement dit, vous ne vous êtes pas rencontrés. Vous n'avez pas rencontré le Dieu des consolations. Parce que lui, le riche, pouvait faire quelque chose. Ce qui m'étonne, c'est qu'Abraham semblait connaître le mauvais riche. Ce n'est pas une image. Je vous le dis, l'histoire des ballons, c'est une image, bien sûr. Là, ce n'est pas une image parce que jamais Jésus n'aurait parlé d'un personnage aussi important pour lui et pour Dieu et pour les enfants d'Israël, un personnage aussi important, Abraham, jamais il aurait fait ça. Nous sentons bien que là, le Seigneur nous donne une histoire vraie. Souviens-toi, dira Abraham à ce mauvais riche, souviens-toi, comme si la mémoire restait, la conscience restait dans la mort. La conscience et la mémoire sont même ravivées dans le séjour des morts. Vous me direz, mais ce que vous me dites là, c'est l'enfer. Ce n'est pas encore l'enfer. L'enfer, c'est quoi ? Disons une petite parenthèse. Parce que si on parle du ciel, bien sûr, il existe aussi un lieu qui s'appelle l'enfer. L'enfer, est-ce du feu qui consume jusqu'à quand ? Les gens qui ont commis le mal, et surtout ce grand mal de ne pas aimer Dieu de tout leur cœur et le Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur. L'enfer est une existence sans Dieu, loin de Dieu. C'est le choix de la vie. On a vécu sans Dieu, on voulait rester sans Dieu, et on continuera l'éternité sans Dieu. C'est ça l'enfer. Mais pourquoi est-il parlé des flammes ? Jésus lui-même en parle. Nous voyons bien, en prenant tous les textes de la Bible, que ces flammes correspondent davantage aux remords. Parce que dans ce lieu, il y aura une pleine conscience que Dieu a été juste et qu'il n'y a plus, d'issue. Il n'y a plus de changement possible. Et il ne restera dans la conscience de ces personnes, il ne restera qu'une chose terrifiante, le remords comme un tourment qui durera toujours. Ils reconnaîtront que Dieu avait raison ainsi, parce qu'ils ont fait leur choix. Ils confesseront même que Jésus-Christ est le Seigneur, car tout genou fléchira et toute langue sur la terre et sous la terre confessera qu'il est Seigneur. Mais ils ne pourront plus changer. C'est la continuité de notre vie, avec une parfaite conscience que les gens n'ont pas aujourd'hui, sur Dieu et sur leur état. C'est catastrophique. C'est dramatique. Si le Seigneur est venu du ciel mourir sur une croix et ressusciter, c'est parce qu'il y avait un danger réel. Mais je ferme la parenthèse, je reviens à Abraham. Abraham est souvent cité dans les évangiles par Jésus. Jésus dit, Dieu vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce qui veut dire, Dieu n'a pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu est encore en relation avec Abraham. Dieu reste en relation avec ceux qui sont morts et qui sont partis dans le paradis. Ils ne sont pas dans une salle d'attente, tous serrés, tassés, en attendant autre chose. Ils sont en relation. Il vivra, dit Jésus, en parlant de l'autre Lazare qui est mort. Donc, après le passage de la vallée de la mort, Dieu reste le même envers nous. Je pense qu'on n'aura jamais connu sur la terre une rencontre avec Dieu si belle que celle que nous aurons quand nous passerons le passage. Le Seigneur sera avec nous. Nous serons avec lui toujours. Paul dit, si nous mourons, c'est pour être avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, en parlant de lui, qu'il était en prison, il était condamné, peut-être allait-il mourir, il ne savait pas très bien quelle sera l'issue du jugement, mais il disait, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur, ce qui de beaucoup est le meilleur. On ne cherche pas à mourir. Paul n'a jamais cherché à mourir. Mais la comparaison est simple entre la présence de Dieu dans le ciel et ce que nous vivons sur la terre. C'est clair. c'est le meilleur là-haut. Jésus dit encore en parlant d'Abraham, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ça l'enfer. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, c'est dans Luc chapitre 13, comme le mauvais riche. Ce qui veut dire que nous, des gens verront de loin, sans pouvoir passer l'abîme. Des gens verront de loin Abraham, Isaac, Jacob. Ils seront dans des grincements de dents, dans le regret, et ne peuvent pas passer, parce que ce passage-là, entre le non-Dieu, entre ce qui, ou là où Dieu n'est pas, là où Dieu est absent, et la présence de Dieu, il y a un petit passage, aujourd'hui, qui est très facile à passer, mais c'est le plus grand passage de toute l'existence. Le plus grand passage, en fait, n'est peut-être pas la mort elle-même, c'est le passage vers Dieu. Et ce passage aujourd'hui est très facile. Il faut en profiter. Ce passage, c'est la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Si nous découvrons ce passage, si nous le franchissons, nous sommes sauvés et nous devenons une nouvelle création. Après, nous ne pouvons pas. Le Seigneur a dit, il y a un passage que on ne peut pas aller ni d'un côté ni de l'autre. Il dit encore le Christ à propos de ce ciel et d'Abraham. Je vous déclare que plusieurs, nous l'avons lu, viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, à table. Cela veut dire que nous mangerons. Cela veut dire que nous posséderons des biens céleste et que Jésus nous servira. Parce que dans une autre parabole, il est dit que le Seigneur mettra son vêtement de travail, pardonnez-moi, oui, et il nous servira. Jésus nous servira. Et nous serons dans une communion avec toute une foule de gens et je reconnaîtrai Abraham. Nous reconnaîtrons Abraham, pourquoi ? Nous ne l'avons jamais vu. Parce qu'Abraham, bien, il fait partie des belles œuvres de Dieu. C'est étonnant parce que j'ai rencontré des gens qui me disent « Bon, on verra la cité céleste, on verra le fleuve de vie du ciel, mais Abraham, mais c'est pas possible, on ne le reconnaîtra pas. » Mes amis, j'ai commencé avec Abraham et avec toute la compagnie de ceux qui sont déjà parvenus dans le ciel. Parce que l'une des plus grandes beautés du ciel, ce sont les êtres humains que Dieu a sauvés par son Fils Jésus. Et je crois que dans le ciel, nous aurons la révélation d'une merveille. On reconnaîtra, ou plutôt on découvrira Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Pierre, Jacques, Jean, Marie, Leprat, par la grâce de Dieu. Ainsi, nous rejoindrons l'histoire de l'Ancien Testament. Nous rejoindrons les promesses du commencement. Nous rejoindrons tout le début, la boucle sera bouclée. Un jour, un homme a dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. » Eh bien oui, le ciel est comparé à un repas. C'est une des paraboles de Jésus. Un roi qui fait des noces pour son fils et qui invite beaucoup de gens. Vous êtes invités d'ailleurs, je vous le dis. Il invite beaucoup de gens à ce repas. Mais c'est un repas réel. Réellement, nous mangerons. Mais que nous a dit Jésus à la dernière scène ? Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ce qui veut dire que nous mangerons et nous boirons. Qu'a dit le Seigneur en ressuscitant et en mangeant du miel et du poisson devant les apôtres qui étaient tout étonnés et qui se posaient beaucoup de questions ? Il dit, mais regardez-moi, j'ai des os, touchez. Alors ils étaient étonnés. un esprit n'a pas d'os. On pourrait presque traduire, un fantôme n'a pas d'os. Comme j'ai, a dit Jésus. Alors bien sûr, on ne va pas aller très loin aujourd'hui. On ne va pas se poser des questions. Question qui nous embarrasse parce que c'est une autre création, je n'ai aucun modèle sur la terre, je ne sais pas comment nous mangerons ce que nous mangerons, s'il y aura du vin, mais je ne sais pas, le reste je ne sais pas. Dans l'Apocalypse, tout à la fin de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a ses grandes visions et Dieu lui dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Et il ajoute, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, les véritables paroles de Dieu. Il y aura des noces, il y aura un repas, nous serons ensemble. Le Seigneur nous réunira. Il réunira ses enfants d'en haut et d'en bas, dispersés aujourd'hui. Et il sera au milieu de nous. C'est, je crois, la plus belle nouvelle. Donc, dans le ciel, nous rencontrerons des hommes et des femmes. Nous rencontrerons des gens. Oui, j'ai bien dit des hommes et des femmes. Je commençais à regarder un débat l'autre jour qui conteste vraiment le genre masculin, féminin. On perd la tête. On va dans un délire. La seule chose de la Bible qui est signalée, c'est que dans le ciel, nous ne nous marierons pas. Profitez bien de vos maris et de vos femmes. Nous ne prendrons pas de femmes, nous ne prendrons pas de mari, mais les femmes ne prendront pas de mari, mais ils seront toujours des femmes. Parce que Dieu, pourquoi est-ce qu'il va transformer tout le monde en femme ? Ou tout le monde en homme ? On ne va pas s'en sortir, mais Dieu a la solution. Deuxième grande découverte du ciel. Raconte-moi le ciel. Les anges. L'Épître aux Hébreux nous dit, quand nous chantons, quand nous prions, quand nous sommes en culte, quand nous sommes avec le peuple de Dieu dans l'adoration, nous nous approchons de la chorale, du cœur des myriades d'anges. Je traduis, de la chorale des centaines de millions d'anges. Ça va faire du bruit. Des anges par millions sont en fête et chantent dans le ciel. Nous les verrons. Ces anges qui nous ont accompagnés dans notre existence et que nous n'avons jamais vus sont très humbles. Nous, quand on fait quelque chose, on le signale. C'est moi qui ai fait ça. Hein. C'est moi. Les anges font beaucoup de choses et ne se montrent pas. Ils nous ont délivrés discrètement, peut-être déjà de la mort. Dieu leur a demandé qu'ils nous gardent, qui nous protège, qui nous porte sur les mains et qui nous arrache au danger. Quand Lazare est mort, la Bible dit que son âme a été enlevée, a été prise au ciel par des anges. Il faut écouter ces paroles de Jésus. Il faut les accueillir comme telles, parce que Jésus ne triche pas avec nous, ne nous raconte pas des histoires de ballons. Dans l'Apocalypse, Jean voit des anges dans le ciel partout. Très fort et obéissant. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Mais quand nous prions, mes amis, que ta volonté soit faite sur la terre, bon, on comprend, comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, comme au ciel ? Qui dans le ciel fait quelque chose ? Qui dans le ciel obéit à Dieu, à notre Père ? Les anges. Dans un psaume, il est dit obéissant, puissant en force. Quand le Seigneur viendra nous chercher, il sera accompagné de tous ses anges. Quelle fête fantastique ! Parle-moi du ciel. Nous verrons nos compagnons de service. Nous verrons ceux qui nous ont secourus et devant lesquels certainement nous nous serions prosternés si nous les avions vus. Comme Jean, d'ailleurs, s'est prosterné une fois dans le ciel et l'ange lui a dit « Non, non, je suis un compagnon de service comme toi. » Et pourtant, quelle force. Il entend dans le ciel des centaines de millions d'anges qui chantent « Le Christ, l'agneau sacrifié, est digne de recevoir la louange et la sagesse et le règne, etc. » Il entend les anges qui chantent. Jésus a dit, nous serons semblables aux anges. Je ne sais pas s'ils ont tous des ailes. Dans la Bible, certains ont des ailes. Mais pourquoi il dit, nous serons semblables aux anges, puisque nous, nous aurons un corps ressuscité? Est-ce que ça veut dire que les anges aussi ont un corps? Que de mystère! On ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Ils ont peut-être un certain corps, adapté à ce qu'ils font, à leur environnement, comme le poisson, il a un corps qui va très bien, on ne peut pas faire mieux à l'eau. Le mien, non, mais le poisson, oui. Quand le ciel s'ouvre devant Jean, il voit des anges très proches de Dieu qui accomplissent des choses extraordinaires. Il y a même un ange qui va lier Satan et qui va le jeter dans une prison. Et puis les anges qui vont arrêter l'Euphrate pour que les armées de l'Orient défilent sur le reste du monde et sur l'Europe. On en reparlera. Et le Christ dit même que les anges vont séparer les méchants des bons à la fin des temps, à la fin du monde. Ils font des choses étonnantes. Mais les anges, ils nous regardent. C'est l'apôtre Pierre qui dit que les anges plongent leur regard dans notre vie. Ils ne voient pas toujours des choses très belles, peut-être, hein, attention. Mais ils plongent leur regard dans notre esprit. Pourquoi faire? Sont-ils des curieux? Pour contempler tout ce que le Seigneur fait dans la vie de ceux qui font confiance au Seigneur. Amen. C'est tellement étonnant, tellement grandiose, tellement unique, qu'au balcon du ciel, les anges regardent en disant « Regardez ce que le Seigneur fait là. Regardez une telle qui est récupérée. Et lui là qui est sauvé de la mort. Et lui qui est pardonné de ses fautes. Regardez ce que le Seigneur fait. » Nous verrons les 1000 défenseurs qui nous ont environnés toute notre vie depuis notre berceau. Et puis, troisièmement, dans le ciel, nous verrons la cité céleste. Ah, on voudrait habiter à la campagne, non? Être un peu tranquille, loin du bruit, loin de la pollution. Ah, la ville, c'est pas facile. Savez-vous, mes amis, que dans le ciel, il y a une ville qui nous attend? Quand nous sommes, encore une fois, avec le peuple de Dieu pour chanter les chants et pour écouter l'Évangile, l'Épître aux Hébreux nous dit, encore une fois, vous vous approchez de la cité, de la ville, du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. C'est dans Hébreux chapitre 12. Il y a dans le ciel une ville. Des gens pourraient penser que je dirais complètement comment elle tient et par quelle ficelle, etc. Abraham, depuis le commencement, Abraham, qui en connaissait beaucoup moins que vous, il attendait cette ville. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Ils ont même accepté d'être des nomades, des voyageurs, sous des tentes, dans une terre inconnue, une terre promise, mais qui ne sera pas tellement pour eux, mais plutôt pour leurs descendants. Ils ont accepté de vivre comme des nomades parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient dans le vestibule et qu'ils attendaient une meilleure patrie. La cité céleste, qui a des fondations très solides. La tente d'Abraham, ça flottait au vent. Et quand un chameau s'approchait, il devait mettre son museau peut-être sous la tente. Mais Abraham attendait cette cité aux solides fondations. C'était le secret des patriarches, c'était le secret de l'Ancien Testament. On attendait une ville qui est toute préparée par Dieu. Dieu en est l'architecte, ça doit être très beau. Dieu en est le constructeur, il en est l'ouvrier. On ne va quand même pas refuser une pareille cité. Amen. On ne va quand même pas refuser un si beau pays, un si beau royaume. Parce que j'imagine que lui qui a fait des millions de poissons différents, des milliers de papillons différents, des centaines de millions peut-être de fleurs différentes, je pense que dans cette cité, dans cette ville, la Nouvelle Jérusalem, quelque chose de très très beau nous attend. Peut-être qu'il faut que je vous rappelle que sur la terre, nous n'avons pas une cité permanente. On s'y accroche à la terre. On se cramponne. Même les Égyptiens faisaient des tombeaux pour l'éternité. Nous, nous sommes là de passage en attendant la maison à venir, la cité de Dieu. Mais Jésus nous l'a dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et vous serez avec moi. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il voit cette ville qui descend du ciel, qui est belle comme une mariée. Parce que cette ville, elle représente le peuple de Dieu dans toute sa beauté, dans toute sa joie, toute sa force, tout ce que Dieu a fait. Cette ville est une ville et cette ville représente l'Église. Une ville dans le ciel qui s'appelle, avec un nom qui sur la terre est compliqué, un nom qui provoque le trouble général, qui pourrait provoquer une guerre mondiale, le nom de Jérusalem. La Jérusalem d'en haut qui est libre et qui est notre mère, dira l'apôtre Paul. Et dans cette Jérusalem, il y a des noms décrits, il y a le mien, il y a tous les noms de ceux qui ont dit oui à Jésus, Sauveur, ressuscité. Et quand Jean, il voit cette ville qui descend du ciel, il la voit comme une pierre transparente, une pierre de jaspe. Oh, vous avez des pierres précieuses chez vous ? Avez-vous quelques rubis, quelques diamants ? On pourrait peut-être les regarder la semaine prochaine. C'est assez rare. Toute une ville de 2000 km de côté, toute en pierre précieuse, transparente. Il n'y a plus de rideaux, Dieu ne se cache pas. Il n'y a pas de nuée qui cache la beauté de Dieu. Tout sera transparent, nous serons transparents. Et sur les fondations de cette ville du ciel qui vous attend, qui m'attend, il y a des noms décrits, gravés dans les fondations. Pierre, vous connaissez ? Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu. Matthias, les apôtres, leurs noms sont écrits sur les fondations de la Jérusalem céleste. Cela veut dire que ce que Dieu a commencé sur la terre continue dans le ciel. L'histoire continue. On ne dira pas, on est où, on n'a pas de relation avec ce monde-là, c'est notre monde qui continue. Et nous, au fait, quelle trace restera-t-il de nous dans le ciel ? Je suis un peu jaloux, je vous l'avoue, qu'il y ait sur les fondations le nom de ces 12 apôtres, et le mien n'y est pas. Je suis un peu jaloux que sur les portes de la ville de Jérusalem céleste, il y ait le nom des tribus d'Israël, et puis il n'y a même pas la tribu des Bretons sur la porte, il n'y a rien. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Quand on croit dans le Christ, le Seigneur a inscrit nos noms dans son livre comme pour nous dire « Je ne vous oublierai jamais, vous êtes gravés sur mes mains, dans ma mémoire. Les siècles, les millénaires peuvent passer avant la résurrection, certes, mais vous êtes écrits là où personne ne peut gommer, effacer votre nom, la Jérusalem céleste. » Oui, c'est vrai. Que restera-t-il de nous ? Quelle photo pourrions-nous emporter qui résumerait le XXe siècle ? On a pensé à cette question. Que restera-t-il de ce XXe siècle ? Si on pouvait ramasser qu'une photo. Écoutez, moi je verrais une photo. Le petit garçon dans les rues de Varsovie avec son grand chapeau. Et l'étoile de David sur lui et qui est là avec un regard à faire pleurer. Peut-être que ça pourrait représenter le XXe siècle. Que restera-t-il de nous ? Parce que nous n'avons rien à porter dans le monde et nous ne pourrons rien emporter. Et pourtant si. Oh, on n'emportera pas nos comptes bancaires, faites attention. On n'emportera pas nos belles fleurs, ni nos armoires anciennes. Ni la voiture que nous bichonnons tous les samedis. La Bible dit, Dieu a dit, Heureux dès maintenant ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Ce que nous avons fait en accord avec Dieu, dans l'amour et la joie, dans l'humilité, dans les renoncements, dans la patience, dans toutes les souffrances, dans la miséricorde, tout ce qui est beau, tout ce qui est durable, tout cela ne passera pas pour nous qui avons pris le chemin vers la cité céleste. Les œuvres nous suivront. Nous suivrons. Ce n'est pas les œuvres qui sont devant nous et qui ouvrent la porte. Les œuvres nous suivent. Et elles resteront avec nous comme un poids de beauté et de gloire pour les siècles des siècles. Faisons du bien. Aimons-nous les uns les autres. Tout cela a de la suite. Jésus le dit souvent, votre récompense sera très grande dans les cieux. Même pour un verre d'eau, froide. Oh, je préfère l'eau froide que l'eau tiède. Même pour un verre d'eau, votre récompense sera grande. Ce qui veut dire que le Seigneur garde en mémoire tous nos gestes. Et quand il nous dira, et quand il dira à ceux qui sont en mort depuis, mort mais vivant, parce qu'il n'y a pas de mort en fait, eh bien quand il nous dira à la fin des temps, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, mais ça fait 3000 ans Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir faim? Tout est gravé dans la mémoire éternelle de Dieu. Cette ville étonnante, je le répète, descend du ciel sur une terre renouvelée, une terre nouvelle. Le ciel et la terre enfin sont réunis. Vous savez ce qu'a dit Jésus ? Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Je ne sais pas si c'est cette terre-là, parce que cette terre-là, elle est souillée de sang et de larmes. On entend tout le bruit des armes aujourd'hui. Ils hériteront la terre nouvelle, renouvelée, que le Seigneur va nous donner dans son royaume. La ville est préparée. La Jérusalem, qu'elle soit présente à nos cœurs parce qu'elle n'est pas très loin de nous. Et tout ce que nous faisons, c'est une préparation pour notre nouvelle vie, dans notre nouvelle maison et avec notre nouveau corps. Savez-vous que le Christ est entré après sa mort dans la cette maison du ciel ? Avec son sang ? C'est écrit dans la Bible. Il est entré pour dire à son Père, pardonne-leur. Et pour nous dire, je vous prépare une place. Et nous nous répondons, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée des jours. Amen. C'est passé quelque chose de grandiose. Nous serons toujours avec le Seigneur, dit Paul, consolez-vous avec ces paroles. Si nous ne vivons pas en présence de Dieu, nous manquons de tout. Nous manquons de Dieu et nous manquons d'espérance. Ah, une chose m'a étonné sur cette terre, une chose qui m'a un peu, je ne dis pas chagriné, mais qui me laisse un peu rêveur. La mer n'existera plus. Oh! Saint-Malo sera en plein milieu des terres. La mer n'est plus. Est-ce qu'il faut y voir simplement un symbole? Parce qu'il y a aussi des symboles dans la Bible. La mer, c'est quoi la mer? Ça représente l'agitation. On est agité aujourd'hui quand même. Hein. Ça représente la séparation. Parce que ceux qui habitent aux États-Unis, je ne peux pas trop les voir. Ils sont loin. Et ça représente l'éloignement. Alors, peut-être que le Seigneur veut nous dire... Eh bien, il n'y aura plus d'agitation, il n'y aura plus de l'éloignement entre les peuples, il n'y aura plus de séparation. Les grands abîmes n'existeront plus. Et puis Jean, je vais conclure, il voit dans cette ville un jardin. Ah, ça m'a beaucoup rassuré. Parce qu'on est accroché à ce qui est beau et floral. Et il voit un jardin avec un fleuve d'eau de la vie. Transparent comme du cristal, sans pollution, hein, sans pollution. Et ce fleuve, il sort du trône de Dieu, comme c'est surprenant. C'est-à-dire que c'est un fleuve que Dieu donne. Dieu est sur un grand trône, et sous son trône, il y a un fleuve qui sort et qui irrigue toute la ville, Et il y a un arbre à côté du fleuve qui s'appelle l'arbre de vie. Je pense que cette eau représente la bonté intarissable de Dieu en abondance. Ça représente la grâce de Dieu pour nous. Ça représente la vie qui sort de Dieu constamment et qui sortira de Dieu dans toute l'éternité. Je crois qu'on boira de cette eau, on boira de la vie jour après jour, s'il y a des jours. On boira toujours. Je pense que Dieu, c'est quelqu'un qui fait les choses sans cesse. Il ne dit pas « c'est fini, allez, je vous ai tout donné ». Non, on donnera toujours, il nous donnera toujours. Cette Jérusalem n'est pas loin de nous. Il faut que nous sachions que le royaume s'est approché, dira Jésus, et que nous pouvons boire déjà de cette eau, l'eau de vie que nous donne le Christ. Et l'arbre de vie, pour moi, c'est Jésus lui-même. Ça représente le Christ. Et le Christ, dans l'Apocalypse, il dit « Je donnerai à manger à de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Mais il disait « Celui qui me mange vivra. » Cet arbre de vie, c'est le Christ, avec des feuilles qui guérissent. Des feuilles guérissent, ces feuilles, permettez-moi que je les appelle le pardon, la réconciliation, la consolation, la santé, l'espérance, tout ce qui va terminer les ravages du péché. Permettez-moi que ces feuilles, je les appelle résurrection. Résurrection des morts. Car dans le royaume, je finis par là, finissons par nous. Hein ? Jésus transformera notre corps humilié, humilié par le péché, humilié par les autres. Notre corps de pesanteur, notre corps de misère, notre corps qui va toujours en déclinant, il le transformera. Parce que rien ne sera laissé dans la mort, rien. Nos corps, nos âmes, nos esprits, nos œuvres, notre mémoire. Et il le rendra ce corps semblable à son corps glorieux. Il y a un mot qui est très beau, semblable. Nous ressemblerons à Jésus glorifié dans la résurrection. Avec un corps adapté au ciel, un corps immortel. Adapté à la vie avec Dieu, adapté pour marcher dans, je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on marchera, ce que nous ferons. Dieu nous dit que l'essentiel, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Le reste, je m'en charge, dit le Seigneur, et vous serez surpris. Amen. Ce sera magnifique. Mais vous me direz, pourquoi s'il faut absolument un corps ? Le corps, c'est notre histoire. On a aimé dans un corps, on a fauté dans un corps, on a souffert dans un corps, on est mort dans un corps, on ressuscitera dans un corps. Il y aura une transformation et une continuité du corps. Dieu ne va pas recréer un autre corps à côté. Sinon, je vous dirais, mais je ne me reconnais pas. Il va créé à partir de notre corps. Une cellule suffit, vous le savez maintenant. Avec la science a découvert beaucoup de choses. Je serai dans le ciel avec mon corps. Job disait, je verrai Dieu, je le verrai avec mes yeux, pas les yeux d'un autre, avec mes yeux, je verrai Dieu. Continuité. Mais justement, comme il y aura une continuité de notre vie, nous allons mesurer plus que quiconque tout ce que Dieu a fait pour nous. Et nous dirons, quand même, j'étais dans la détresse, la misère, l'alcoolisme, j'étais dans la honte, dans le péché, et maintenant je suis devenu ce que je suis par la bonté du Seigneur Jésus. Et nous remercierons Dieu parce que nous aurons sur nous la marque de la transformation. Transformation. Est-ce qu'on se reconnaîtra ? Je vous l'ai déjà dit au début. Nous verrons Abraham. On ne dira pas qui c'est celui-là avec sa barbe. Nous verrons Abraham, Isaac, Jacob. Et je pense que nos relations de famille ne seront pas changées. Dans le sens que je reconnaîtrai ma femme. Je dirais, mais qui vous êtes-vous? Abraham, ok, je le connais, Moïse, Pierre, Jean, Jacques, Marie, mais toi qui tu es? Non, on se reconnaîtra. Et nos sentiments ne seront que plus forts. Nous aurons des sentiments purifiés, nous aurons des sentiments renouvelés, mais nous ne prendrons pas de femmes. Voilà, je vous l'ai dit. Hein. Et les femmes ne prendront pas d'hommes. Je vais finir par un mot. À qui le ciel est-il ouvert? Aux intellectuels, aux riches, aux saints, aux forts, aux bien-pensants? Je redis cette parole que j'aime bien. Vont au ciel ceux qui veulent. Amen. Vont en enfer ceux qui veulent. Parce que le Seigneur rappelle dans cette parabole du repas, il appelle tous les invités. C'est une question de répondre à l'invitation. Mais voici que les invités, devant le beau pays, devant la belle ville qui est dans le ciel, et bien devant le beau repas, ils se sont tous mis à s'excuser. Excuse-moi, je te prie, je viens de me marier. Excuse-moi, je viens d'acheter des bœufs. Excuse-moi, je viens d'acheter un champ. Tous se sont excusés. Autrement dit, j'ai voulu vous rassembler et vous n'avez pas voulu, dit Jésus. Vous n'avez pas voulu. Va au ciel qui veut. Mais la porte est ouverte. Ce n'est pas nous qui pouvons par nos forces. La porte est ouverte, largement ouverte. Enfin, un mot qui peut-être peut résumer toute l'Apocalypse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées, ont disparu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prie le Seigneur avec vous. Seigneur, merci de nous avoir préparé de telle beauté, un tel amour, une telle présence avec nous qui durera toujours. Nous étions loin et tu nous as rapprochés jusqu'à nous mettre dans ta propre maison, jusqu'à faire de nous tes enfants adoptés, d'adoption. Nous voulons répondre oui à ton appel. Nous voulons oui, oui, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Avec mes fautes et mes chagrins, avec ma pesanteur et mes péchés, je viens parce que tu es la porte du ciel largement ouverte. Merci Seigneur. Amen.